Merci à tous ceux qui se joignent à nous. Si ça vous tente de réécouter notre première heure d'émission, vous pouvez le faire via l'application Cogeco que vous pouvez télécharger. Et bien sûr, en allant cliquer sur notre émission, sur notre site du 98.5. Et vous aurez les témoignages de tous ces gens qui s'expatrient, qui vont voir ailleurs comment est la vie et qui en reviennent avec des expériences fabuleuses ou qui n'en reviennent pas. En tout cas, ça a été une heure fort intéressante. On va, c'est un lien finalement, notre prochain sujet, puisqu'on va quand même parler de voyage. Probablement, vous prévoyez de le faire cet été ou même de vous promener au Québec. Et vous savez que qu'on fasse du camping, du trekking, de la randonnée dans des forêts ici ou sous les tropiques, il faut vraiment faire attention. Et là, on va parler des précautions à prendre en été pour éviter de tomber malade. Et on a une personne fabuleuse pour ça, puisqu'elle est directrice médicale des cliniques du groupe Santé Voyage. C'est la docteure Dominique Tessier. Merci, Dominique, d'être là. On se connaît depuis longtemps.
Et oui. Hein?
Et puis, vous venez régulièrement à notre émission pour nous prévenir parce qu'effectivement, en particulier cette année, Dominique, là, on parlait dernièrement, j'en parlais avec mes auditeurs, recrudescence de moustiques chez nous. Parlons du Québec d'abord. Là. Quelles seraient les précautions à prendre cet été si on veut éviter d'attraper toutes sortes de maladies qui sont transmises parfois par ces bibittes-là?
Absolument. On a une recrudescence de maladies de Lyme qui commence à se répandre de plus en plus au Québec.
On a parlé l'éthique.
L'éthique, ouais. Effectivement. On a parlé de la région de la Montérégie, l'Estrie, mais ça se répand aussi en Mauricie et dans l'Outaouais. Donc, dès qu'on va faire un trek, dès qu'on sort des sentiers ou des routes, on devrait mettre du chasse-moustique. Et en rentrant de randonnée, particulièrement si on a des jeunes enfants qui sont écartés un peu des sentiers ou si on a des animaux de compagnie, on devrait s'inspecter et inspecter les animaux aussi pour voir s'il y a des tiques. Si on porte des vêtements clairs, c'est beaucoup plus facile à faire, mais on doit le faire de toute façon pour s'assurer qu'il n'y a pas une petite tique accrochée, puisque la maladie se transmet seulement quand la tique est accrochée pendant plusieurs heures.
Et est-ce que toutes les tiques ne sont pas infectées par la maladie de Lyme, là, qui est... mais il faut quand même faire très attention.
Oui, et toutes les tiques ne sont pas des tiques qui peuvent transmettre. Voilà. Donc, sur le site de Santé Québec, on peut trouver des images des tiques et on peut aussi faire attention en les retirant, les mettre dans un contenant propre et les apporter au médecin qui a aussi les capacités de vérifier est-ce que c'est une tique à risque ou pas et de prescrire un traitement si jamais c'était le cas. Mais le mieux, bien sûr, c'est d'éviter de se faire piquer.
Oui, de se faire mordre. Comment faire ça à part le fait, bon, on se met... du chasse-moustique, ça marche pour les tiques aussi?
Absolument. Ah, alors, les chasse-moustiques communs à base de DEET qu'on connaît bien sont très efficaces, sont les plus efficaces d'ailleurs contre les piqûres de tiques, d'insectes et tout ça. Mais un nouveau produit depuis quelques années au Canada qui s'appelle Icarizine est aussi très efficace et est préféré souvent des parents parce que son odeur est bien meilleure. On peut l'utiliser chez les jeunes enfants de moins de 2 ans. Évidemment, en bas de 6 mois, on laisse l'enfant sous une moustiquaire, on le protège avec des vêtements. On ne couvre pas de chasse-moustique, on couvre de vêtements pour éviter qu'ils soient piqués, insectes volants ou tiques et tout ça. Mais chez les plus vieux, on va utiliser des produits.
On parle aussi de la citronnelle. Est-ce qu'il y en a un meilleur ou moins nocif pour la santé que l'autre? Parce que le DEET, évidemment, on se dit toujours, bon, ben, je suis en train d'essayer de me protéger de quelque chose en m'aspergeant de quelque chose d'autre qui est peut-être pas trop bon pour ma santé. C'est toujours une espèce de dilemme, je trouve.
Les meilleurs produits sont les produits qui sont efficaces. Ouais. On oublie la citronnelle, on oublie les produits de ce genre-là.
Ah
on
ouais?
utilise Icarizine ou DEET qui ont fait leur preuve depuis les années 50, qui sont très, très sécuritaires. Les seuls problèmes rapportés avec le DEET, par exemple, c'est quand un enfant a bu une bouteille de DEET, ce qui n'est pas du tout l'utilisation recommandée. Non, donc, on fait attention, on les met hors de portée des enfants. Maintenant, les bouchons sont plus sécuritaires et tout ça, mais on n'a pas à craindre le DEET ou l'Icarizine. On devrait craindre plutôt les maladies qui sont transmises par des insectes et les tiques.
Oui, tout à fait. Puis les tiques en particulier. Moi, depuis que j'ai fait mon documentaire sur la maladie de Lyme, là, au Québec, avec des gens qui ont été pendant des années, qui ont été mordus, puis que ça a pris du temps parce que la santé publique commence à se rendre compte que c'est une vraie maladie puis qu'il y a des gens qui sont touchés au Québec. Mais il n'y a pas si longtemps, ça fait juste 2 ans, là, mais il n'y a pas si longtemps, il y avait encore une espèce de négation du problème. J'ai des gens qui ont témoigné dans mon docu qui disaient qu'ils allaient voir leur médecin, puis leur médecin disait « Non, non, c'est dans ta tête », alors qu'ils allaient aux États-Unis et ils testaient positif à la maladie. Et c'est une maladie, malheureusement, qui est très longue. Si on n'a pas eu le traitement, aujourd'hui, le traitement antibiotique peut être donné.
Absolument. Ouais. Très rapidement, dès la piqûre de tique. Il faut faire attention parce que ce sont des symptômes qui sont assez généraux,
ouais.
Qui peuvent ressembler à tellement d'autres maladies. Donc, il faut quand même s'assurer d'avoir un bon diagnostic
Mais comment on se sent, là? Devrait peut-être nous le dire, Dominique?
La majorité des gens n'auront pas de symptômes. OK, donc ne seront pas malades et ils n'auront pas de conséquences non plus. Il peut avoir une rougeur, un érythème sur la peau. Il peut avoir, après, si ce n'est pas traité rapidement, des problèmes articulaires ou des problèmes cardiaques ou même neurologiques.
Wow, fait que donc il faut vraiment s'inspecter.
On se protège.
Parliez des animaux, est-ce qu'on doit aussi mettre du DEET sur nos animaux? Notre chien va avec nous en promenade, il faut lui mettre aussi un insecticide?
Je suis pas vétérinaire, alors on inspecte les animaux, on essaie d'éviter qu'ils aillent dans les hors des sentiers battus et tout ça.
Mais votre logique médicale vous dirait qu'on le fait?
Ma logique médicale me dirait qu'on peut, mais je vérifierai avec un vétérinaire avant.
Okay, bon, ben, s'il y en a un qui nous écoute,
propre expertise.
J'ai ma question là-dessus, s'il y a un vétérinaire qui nous écoute, est-ce qu'on met aussi de l'insecticide sur nos animaux si on les amène avec nous? Bon, là, on parlait des tiques parce qu'ils peuvent donner la maladie de Lyme, puis on sait que c'est une maladie qui est quand même assez importante. Les insectes volants, on parlait de la recrudescence de moustiques cet été. Effectivement. Oui, hein? À Montréal, entre autres, mais à la grandeur du Québec, on nous dit « faites attention ». Qu'est-ce qu'on peut faire contre les moustiques, les maringouins?
Alors, les mêmes produits, le DEET, les caridines, sont très efficaces. Les moustiquaires, on vérifie à nos fenêtres et tout ça. On s'assure de porter des vêtements clairs.
Ouais.
Et bien sûr, quand on est dans des zones à plus haut risque, comme en pays tropical, on vérifie s'il y a un risque d'avoir la malaria, par exemple, qui est une des maladies les plus graves qui peut être transmise par les piqûres d'insectes. Donc, on doit consulter avant de partir en pays tropical. Et aussi, on prend de bonnes précautions quand il y a des risques de dengue, de chikungunya, de zika, de fièvre jaune, qui sont toutes transmises par le même insecte, l'Aedes, qu'on ne retrouve pas au Canada, heureusement, on est chanceux, mais qu'on retrouve dès le milieu des États-Unis vers le sud en été.
Donc, même en Floride?
Même en Floride et dans tous les pays tropicaux, bien sûr, toutes les destinations soleil. Donc, on prend de bonnes précautions, on prend ça au sérieux, les moustiques. Quand on est sur la plage, là, on va dans une destination soleil, tout compris, sur la plage, on a le vent du large qui va nous faire un très bon travail anti-moustique.
Okay.
Donc, en général, on n'aura pas besoin de mettre du chasse-moustique.
Parce que là, crème solaire, là, je faisais un truc avec des dermatologues il n'y a pas si longtemps, on parlait des méfaits du soleil et l'importance de se protéger la peau. Là, c'est crème solaire ou chasse-moustique?
Alors, les deux.
Ouais.
On met la crème solaire en premier qui doit réagir avec la peau pour avoir une bonne efficacité. Et le chasse-moustique doit aller la dernière couche sur le dessus. C'est la première chose que le moustique doit sentir en s'approchant de nous. Donc, on veut que ça soit sur le dessus. Donc, on le met en dernier.
Mm-hmm. On a eu des cas de virus du Nil au Canada. Est-ce que c'est toujours une préoccupation, Dr. Tessier?
Absolument. C'est même un petit peu en augmentation récemment. Le virus du Nil, il faut savoir que la majorité des gens ne seront pas malades du tout. Beaucoup, beaucoup de gens ont été infectés depuis son entrée au Canada, sans le savoir même. Ils ont des anticorps, puis ils sont en bonne santé. C'est un virus qui atteint particulièrement les personnes malades, les gens qui sont traités pour des cancers, qui ont des maladies chroniques graves, les très, très jeunes enfants. Donc, c'est ceux-là qu'on doit davantage protéger encore contre les insectes et tout ça.
Si on a une santé fragile, on est plus à risque à cause de notre système immunitaire plus bas, est-ce que
exactement.
C'est ça?
Ouais. Et c'est le cas pour plein de maladies.
Ouais.
Alors, quand on recommande des vaccins, par exemple, aux personnes très malades, on va s'assurer que, parfois, on va donner des doses supplémentaires. Donc, c'est pour ça qu'on pose des questions en clinique santé voyage, on va demander, avez-vous une maladie grave? Prenez-vous des médicaments, etc.? Tout ce qui peut affaiblir un peu le système immunitaire rend la personne plus à risque d'attraper la maladie et d'en avoir des conséquences graves, mais en plus, diminue un peu sa réponse au vaccin. Donc, on doit compenser dans certains cas en doublant les doses ou en augmentant les doses qu'on va donner à ces personnes-là.
Dès qu'on voyage, en fait, Dr. Tessier, est-ce qu'on devrait se poser la question, est-ce que j'ai besoin de vaccins?
Absolument. Toujours. Dès qu'on sort de l'Europe, des États-Unis, du Canada et de l'Australie, on devrait se poser des questions, on devrait consulter. Et d'ailleurs, même si on voyage au Canada, on devrait s'assurer que nos vaccins de base sont à jour.
Comme par exemple?
Tétanos, par exemple, qui est important de mettre à jour, mais aussi des vaccins comme le Zona. Une personne plus âgée qui voyage, qui va être fatiguée par les déplacements et tout ça, augmente son risque d'avoir un Zona loin de chez elle, de son médecin, des soins médicaux et tout ça. donc, devrait s'assurer qu'elle est bien vaccinée contre le zona. Les jeunes qui voyagent, qui sont un petit peu plus laissés aller, l'alcool qui entre en jeu et tout, vont avoir plus de contacts sexuels, s'assurer que leur vaccin hépatite B sont à jour, que leur vaccin au niveau du VPH, du virus du papillon humain, sont à jour aussi. Et bien sûr, les équipes sportives qui vont avoir beaucoup, beaucoup d'interactions entre des jeunes qui vont dormir dans des dortoirs et tout, sont plus à risque au niveau de la méningite de type B particulièrement, qui est une maladie rare, mais tellement catastrophique, comme on a vu à Montréal il n'y a pas si longtemps, où ouais. une jeune fille est décédée. Donc, toujours, toujours s'assurer de mettre nos vaccins à jour, idéalement tout le temps, mais particulièrement lorsqu'on a un grand voyage de prévu.
Mais dans le cas de la jeune fille, on ne sait pas. Hein,
C'était une méningite de type B.
Oui,
absolument.
Mais on ne sait pas du tout comment elle a pu la contracter.
C'est un haut risque chez les jeunes de 15 à 25 ans. Et ça se contracte habituellement par partage de gouttelettes de salive. Partager une consommation, partager une cigarette, un joint, tout ça, ce sont des facteurs de risque. Et on ne sait pas pourquoi, mais certaines personnes vont être porteuses du méningocoque, la bactérie, sans être malades. Et là, vont le transmettre à leur voisin, qui, lui, va devenir très, très malade, avec des conséquences très graves. Le risque de décès est élevé, le risque d'amputation est élevé. Heureusement, il existe maintenant un vaccin contre cette maladie-là qui est un peu coûteux, qui n'est pas couvert par le gouvernement, mais qui est vraiment une très bonne protection.
Quels sont les vaccins couverts? Parce que ce que vous disiez, les vaccins de base, ils sont plutôt couverts.
Diphtérie, tétanos, ouais. c'est toujours couvert. Hépatite A et B pour les jeunes, ils ont presque tous été vaccinés à l'école, donc on va vérifier s'ils sont bien couverts. Les jeunes aussi sont en général vaccinés contre le VPH, moins des garçons que les filles, parce ouais. qu'on a commencé à vacciner les garçons beaucoup plus tardivement. Donc, ça, c'est habituellement couvert. La rougeole, on a une grave épidémie de rougeole en ce moment, en Europe, un peu partout. Donc, ça aussi, c'est couvert. Et il faut savoir que la rougeole en particulier, j'aimerais s'en parler un peu.
Oui, je le gardais, la rougeole, pour la pause.
Bon,
c'est-à-dire, alors... après la pause, je voulais qu'on aborde ce cas-là parce qu'il y a effectivement une épidémie en Europe. Mais chez nous, on a aussi des cas de plus en plus. Donc, je veux vraiment qu'on...
On reviendra tantôt.
Qu'on en parle.
Mais ça fait partie des vaccins couverts et gratuits.
Bon, alors justement, aucune raison de ne pas se protéger si on ne l'est pas. On va s'arrêter ici. Docteur Dominique Tessier est avec nous. Elle est directrice médicale des cliniques du groupe Santé Voyage. On parle des précautions à prendre, en particulier l'été, là, pour éviter de tomber malade. Et si vous voyagez, c'est sûr que c'est un... Vous savez, c'est une question qu'il faut se poser absolument. Si vous avez des questions pour notre docteur Tessier, c'est le moment de lui poser. 514-790-9850. Sans frais partout au Québec, 1-866-790-9850. C'est bien sûr des questions qui sont reliées aux vaccins, aux maladies tropicales, aux insectes, à la maladie de Lyme, à la rigueur. Tout ça, tout de suite après la pause. On parle des précautions à prendre cet été pour éviter de tomber malade, de se faire piquer par un insecte volant, de se faire mordre par une tique. En plus, si elle est infectée par la maladie qui créerait la Lyme, ben ça, on ne veut pas ça. Il y a bien sûr les cas de rougeole dont on va reparler avec la docteure Dominique Tessier, qui est directrice médicale des cliniques du groupe Santé Voyage, que j'ai pu tester d'ailleurs et qui y a vraiment des professionnels là qui peuvent répondre à vos questions, qui peuvent prendre rendez-vous. Là, il y a beaucoup de vaccins, comme le dit le docteur Tessier, qui sont gratuits, qui sont payés par l'ARAMQ parce que ce sont des vaccins de base qu'on veut vraiment que vous ayez. Donc, allez voir votre carnet de vaccination. Hein, Dominique, tout le monde devrait avoir un carnet de vaccination. Vérifiez, le tétanos, c'est aux 10 ans, c'est toujours ça?
Relativement, là, il y a des petits changements au Québec, mais au Canada, on continue de recommander aux 10 ans.
Puis au Québec, c'est combien?
Au Québec, c'est une dose après 50 ans, puis une dose après 25 ans. Par contre, si on voyage, aux 10 ans encore.
Aux 10 ans, voilà. On a Gilbert avec nous. Vous avez une question, Gilbert?
Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Félicitations, Madame Maréchal, pour votre émission.
Merci.
Moi, c'est... Écoutez, j'avais une question, je suis rendu à 3. Je fais ça vite. J'ai 53 ans, j'ai été vacciné, bon, comme tout enfant. J'ai pas mon carnet de santé, je ne l'ai jamais eu. De quoi j'ai été vacciné, j'ai aucune idée. J'ai eu une méningite lorsque j'étais jeune. J'ai eu zona. Est-ce que quelqu'un qui a le zona peut réavoir le zona en faisant un voyage? Mm-hmm. Et puis les vaccins, eux... vu que j'ai pas mon carnet de santé.
Comment savoir si vous êtes protégé et comment, voilà. Bon, ben, c'est intéressant. C'est des questions qui touchent tout le monde, Dominique.
Absolument. Alors, les cliniques santé voyage sont très, très habituées à gérer ce genre de situation-là. Monsieur, inquiétez-vous pas. Ils ont des carnets à vous remettre, d'ailleurs. Alors, ils vont vous mettre à jour. Et si vous n'avez pas eu de vaccin depuis plus que 10 ans, c'est certain que vous avez des vaccins à mettre à jour. Donc, votre consultation ne sera pas inutile. Quelqu'un qui a déjà eu le Zona, pour répondre à votre question, oui, peut avoir à nouveau le Zona. Ce qu'on recommande, c'est d'attendre au moins 1 an après avoir eu un épisode de Zona avant de se faire vacciner. Le nouveau vaccin contre le Zona offre une protection de plus que 92 %, donc il est excellent, mais il est en 2 doses. Il fait mal un petit peu, il faut l'avouer. Il va avoir une bonne rougeur, de l'enflure et même parfois de la fièvre qui vont durer 1 jour ou 2, mais c'est tellement moins pire que d'avoir le Zona, surtout en vieillissant, où le Zona est de pire en pire. Ce n'est pas un vaccin qui est couvert par le gouvernement, par contre.
Il coûte combien?
Il coûte à peu près 175 $ par dose et ça prend 2 doses. Autour de ça, ça dépend. Là, vous pouvez magasiner.
Les gens qui ont les assurances santé, ça peut être remboursé?
La majorité des assureurs vont le rembourser.
Ouais,
oui. Pour quelqu'un qui a déjà eu une méningite, malheureusement, il y a quand même un risque d'avoir une méningite et on doit donc surveiller les symptômes. Dépendamment de votre condition médicale, il y a certains gens qui sont à plus haut risque à cause d'un un déficit immunitaire de naissance ou avec des médicaments à qui on va recommander donc une vaccination même après avoir fait une méningite. Mais le vaccin méningite de type B est plutôt recommandé chez les nourrissons, les jeunes bébés en bas de 2 ans et chez les 15 à 25 ans.
Voilà. On a Marie-Ève avec nous. Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va très bien. Vous avez une question ou un commentaire?
Oui, merci. Oui. Ma sœur s'est fait piquer par une tique au début de la semaine. Elle a gardé la tique. Elle ne sait pas combien de temps elle l'a eu parce que c'est sa fille qui l'a remarqué.
Oh, yeah, yeah.
Si elle n'a pas de médecin de famille, où elle va faire analyser la tique?
Alors, elle peut se présenter dans une urgence, un sans rendez-vous, par exemple, dans une clinique médicale, en apportant la tique. En voyant la grosseur de la tique, on va avoir une bonne idée de combien de temps elle a été. Parce que c'est comme la pointe d'un crayon quand elle est vide, et ça vient gros comme un dissous quand c'est plein, quand ça s'est nourri.
Oh,
donc, déjà, le médecin peut avoir une bonne idée.
Et parce qu'elle était quand même assez grosse.
Voilà. Et il peut examiner la tique. Il y a certaines caractéristiques qu'on va retrouver sur Internet. Il va décider à ce moment-là si on doit lui donner un traitement antibiotique préventif ou pas. Mm-hmm. Donc, toutes les urgences peuvent faire ça.
Les urgences.
Il est encore temps, là, si c'était cette semaine, mais qu'elle ne tarde pas.
Mais on ne va pas à l'urgence, on va dans une clinique.
Dans une clinique, dans un sans rendez-vous, par exemple.
Ou dans une... chez vous, là, mettons.
Dans une clinique santé-voyage. Non, il faut une clinique médicale.
Il faut une clinique médicale.
Juste une clinique médicale sans rendez-vous, puis on demande de faire l'analyse.
Oui, c'est ça.
Puis peut-être de voir un médecin, sincèrement, Marie-Ève, moi, je vous recommanderais fortement voir un médecin, là, puis, parce que des fois, si elle est grosse, puis qu'elle s'est nourrie, puis que de sang, bien sûr, là, ça peut être... Oui, je veux savoir, dans quel coin elle a été mordue?
En
Estrie, c'est ça.
C'est une des zones qui est touchée, effectivement. Donc, il faut consulter un médecin en Estrie. Les médecins sont très, très habitués parce qu'ils ont eu à gérer ça depuis quelques mois déjà.
Oui, oui, tout à fait. Puis c'est important vraiment de faire le suivi. Merci, Marie-Ève. Cynthia, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute?
Oui, donc je suis technicienne en santé animale. Je ne suis pas vétérinaire.
Ah oui, bon, c'est pour ma question sur tout à l'heure, là, si on se promène dans la forêt ou même dans un parc, hein, pas besoin d'aller creux dans le bois. Il y a des gens qui m'écrivent, là, qui me disent qu'ils ont été, ils ont eu des tiques sur leur chien dans un parc à Montréal. Fait que, tu sais, il y en a partout. Est-ce qu'on met de l'antimoustique sur notre animal de compagnie?
Pas les antimoustiques pour humains, mais il y en a des spécialement faits pour les animaux qui sont achetés en clinique vétérinaire. C'est sans prescription, donc ils peuvent tout simplement se présenter dans une boutique vétérinaire, pas une animalerie, c'est différent. Sinon, il y a aussi des produits qu'ils peuvent avoir soit par la bouche ou topiques qui vont se vendre sous prescription vétérinaire, qui eux vont faire les puces et les tiques.
Okay.
C'est important, les tiques sont actives à partir de 0 degré, donc aussitôt qu'il fait moins que 0, on peut arrêter les produits, sinon on les continue tant qu'il fait 0 et plus.
Ah oui, donc les animaux peuvent être carrément vaccinés contre les morsures de tiques, hein, c'est ça?
Ils vont être vaccinés, les chiens seulement contre la bactérie qui transmet la maladie de Lyme, qui provoque la maladie. Mais ils ne seront pas vaccinés contre la tique en soi. C'est un produit différent, on appelle ça les antiparasitaires.
Oui, OK.
Donc on a soit le vaccin ou l'antiparasitaire qu'on peut administrer aux animaux.
D'accord. Hey, merci beaucoup, Cynthia. C'était super intéressant, très éducatif. Merci beaucoup. On a Martin qui est avec nous. Alors, Martin, vous voyagez beaucoup et vous vous êtes jamais fait vacciner pour vos voyages.
Je me suis jamais fait vacciner tout court.
Mais voyons
au
donc,
début des
ça?
Années 70, il y avait des enfants qui décédaient après des vaccins. C'était-tu prouvé, c'était-tu ça, je sais pas.
Ouais.
Ma mère, elle a eu peur, puis elle a décidé que je me faisais pas vacciner.
OK. Ouais, ben ça, vous savez, c'est intéressant ce que vous amenez parce que beaucoup de gens aujourd'hui, surtout après tout ce qu'on a dit sur l'autisme, merci Martin, il y a beaucoup de gens, Dominique Tessier, qui nous disent, ben là, regarde, moi, je veux pas risquer. Moi, j'avoue que par rapport au VPH, j'avais des grandes craintes pour mes filles parce qu'il y a eu quand même des mortalités, dont une ou deux au Québec. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au vaccin, à leur innocuité? Puis, par exemple, la grippe, on nous dit à chaque fois 50 % si les gens ne se vaccinent pas à 70 % ça ne sert à rien. Donc, les gens ont comme perdu confiance, on dirait, Dominique, en ce moment, par rapport au vaccin.
C'est une question très importante. Il faut réaliser qu'en 2019, au Canada, avec les mesures qu'on a, aucune mesure de santé publique sauve plus de vies que la vaccination. On sauve des vies avec la vaccination. Le vaccin VPH dont vous mentionnez, ce matin encore, je lisais un article où on croit sincèrement qu'on va éliminer le cancer du col d'ici quelques années seulement grâce à la vaccination VPH en éliminant la transmission de ce virus-là qui non seulement cause le cancer du col, mais aussi le cancer de l'anus, de la vulve, du vagin, du pénis, de la gorge et certains cancers de peau. Donc, ce sont des avancées incroyables qu'on a grâce au vaccin pour réduire ou éliminer les maladies. Les personnes vulnérables sont encore plus à risque. Donc, on parlait de la grippe. Oui, le vaccin est moins efficace chez une personne en bonne santé qui est à faible risque d'avoir des conséquences graves, sauf si c'est une jeune femme enceinte. Mais les gens qui ont des maladies chroniques sont à beaucoup plus haut risque. Alors, des fois, on va se faire vacciner pour ne pas transmettre à ces personnes-là. Moi, je suis médecin, je ne passerai jamais une année sans me faire vacciner parce que je m'occupe de VIH, gens qui ont des cancers et tout ça. Et je ne veux pas être la personne qui va leur transmettre la maladie, même si moi, je suis en bonne santé puis je pourrais certainement survivre à cette maladie-là. Donc, il faut regarder tout ça quand on décide de se faire vacciner ou pas.
Et c'est pour ça que la rougeole revient?
Oui, parce que les gens ne voient plus la rougeole. Les gens ont l'impression que c'est disparu, que c'est pas grave comme maladie. C'est une maladie d'enfance.
Ouais.
Quand j'étais en première année, j'ai perdu ma meilleure amie qui est décédée de rougeole. Les gens oublient que ça tue encore
première
les enfants.
Première année de primaire?
Au primaire, à l'école, oui. Quand j'étais enfant, il n'y avait pas de vaccin à l'époque.
Elle est morte de la rougeole?
Ma meilleure amie est morte de la rougeole. Et il y a encore des gens, en Europe particulièrement, il y a eu beaucoup de décès l'année dernière de jeunes enfants en parfaite santé qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas été vaccinés contre la rougeole. L'épidémie qui se répand en ce moment à travers le monde est en lien direct avec les personnes qui ne sont pas vaccinées. Et d'ailleurs, c'est tellement grave que même si normalement au Québec, on va recommander aux enfants d'être vaccinés à partir de l'âge de 12 mois, si un enfant doit voyager, doit passer dans un aéroport international, on va le vacciner dès l'âge de 6 mois. Juste le fait de se retrouver dans un aéroport international, dans un avion où il y a des gens qui viennent d'autres pays, s'il y avait un enfant qui est en incubation, la veille de sa maladie, il y a un risque de contracter la rougeole. C'est une maladie extrêmement contagieuse et avec de grandes conséquences.
Et donc, chez nous, au Québec, là, il y a une alerte internationale, vous l'avez dit. Je pense que c'est ça, il y a un bébé là, que vous avez vu.
J'ai vu avant-hier un bébé qui a fait une rougeole au Madagascar à l'âge de 7 mois, qui a été hospitalisé pendant plusieurs semaines, qui a eu des conséquences. À date, on n'est pas certain qu'est-ce qui va arriver de son développement. On espère qu'il va s'en remettre complètement, mais il y a toujours des risques à avoir ce genre de maladies-là qui sont des maladies systémiques. Et il y a même des risques avec la rougeole d'avoir un problème neurologique débilitant, un peu comme des maladies de Lou Gehrig, mais chez les enfants, ça ressemble à ça un peu.
Et à part les enfants, est-ce que les adultes?
Après.
Les adultes aussi?
Les adultes aussi peuvent faire des formes de rougeole très graves et bien sûr, ils peuvent l'attraper. Donc, quelqu'un qui est né avant 1970, on n'a pas à s'inquiéter. Okay. On a tous passé par la rougeole au Québec. Là,
sauf
y en avait
Martin,
tellement.
Il dit que oui, c'est ça. Ben, lui, c'est 1970, c'est ça.
Oui, alors, les gens nés avant 70, normalement, ils l'ont eu. Donc, ils ont une immunité naturelle. Ils ont survécu. Ils sont là aujourd'hui. aujourd'hui, puis ils sont corrects. Ceux qui sont nés avant 70, entre 70 et 79, devraient recevoir au moins une dose. Deux doses s'ils sont en voyage ou s'ils sont dans le domaine de la santé ou sont à risque de transmettre. Et les gens nés depuis 1980, où il y avait de moins en moins de rougeole présente au Québec, devraient recevoir deux doses tous.
Les gens, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, là, qui n'ont pas de carnet de vaccination, Dominique, et qui ne savent pas s'ils ont été vaccinés ou pas. Est-ce qu'on peut aller faire prendre une prise de sang qui va aller voir si on a des anticorps qui nous prémunisent ou qui sont une preuve, finalement, de ce qu'on a eu comme vaccin?
On peut, évidemment. Le plus simple, par contre, si on doit partir en voyage et qu'on veut être sûr d'être vacciné, c'est de recevoir une dose avant de partir si on n'a aucune preuve. Et là, on va garder la preuve. Ouais. Maintenant, on a un registre québécois de vaccination. Tous les vaccins sont rentrés dans ce registre-là. Et même si on perd notre carnet dans le futur, on va avoir des traces.
Et ça, ça remonte à partir de quelle date?
C'est cette année, là, que c'est en implantation un petit peu partout. Il y a certaines régions qui ont commencé le projet pilote il y a quelques années. Mais maintenant, c'est partout au Québec. Alors ça, au moins, ça va régler la question de « j'ai perdu mon carnet ».
C'est ça. Pour ceux qui sont vaccinés à partir de maintenant.
Oui.
Mais si on a été vacciné il y a 15 ans, c'est pas dans le registre.
Pas nécessairement, ouais. Sauf que ça a été fait par les infirmières de CLSC, les infirmières scolaires. Ça, okay. C'est tout dans les registres, absolument.
Il y a José qui dit pour les piqûres, les morsures, en fait, de tiques, parce que vraiment, là, on dit une morsure dans le cas d'une tique. En Estrie, elle dit, allez voir votre pharmacien, c'est rapide, ils ont des ordonnances collectives pour prescrire des antibiotiques, c'est un fait?
C'est un fait, c'est une très bonne idée, effectivement. Dans les régions touchées à haut risque, donc Mauricie, Estrie, Outaouais et Montérégie, les pharmaciens peuvent le faire.
Bon, mais, merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations. Docteur Dominique Tessier est avec nous, directrice médicale des cliniques du groupe Santé Voyage. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Tout de suite après la pause, nous avons Papa, notre Papa national. On va parler de vidange. On va surtout parler de plein de belles choses qui se passent dans la vie de Claude Meunier. Restez là, tout le monde.